بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنشكر الله عز وجل أن جمعنا لهذه المحاضرة أو هذه الموعظة، ثم كذلك نشكر أهل المسجد والقائمين عليه لهذا الاستقبال ولما أذنوا لنا بهذا الإلقاء وهذه الموعظة، فبارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا. ثم موضوع الموعظة تكون يعني الموعظة في تفسير بعض الآيات القرآنية التي تبدأ ب يعني في سورة الفرقان، التي تبدأ بالآية وعباد الرحمن، يعني التي فيها وصف عباد الرحمن، وهي التي قرأها الأخ جزاه الله خيرا. ونقرأ التفسير إن شاء الله تعالى، وهو تفسير ميسر سهل جدا، وهو تفسير تيسير الكريم الرحمن، تيسير الكريم الرحمن من كلام في تفسير كلام المنان، وهو تفسير للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، وهو تفسير في الحقيقة يعني أنصح كل المسلمين بتحصيله وبالقراءة فيه والاطلاع عليه، لأنه كتاب سهل جدا ومتداول ومختصر، لكن مع اختصاره وسهولته لا يخل من المعنى ومن الفوائد. وينبغي لكل مسلم أن يفهم كتاب الله عز وجل، فإن هذا الكتاب لم ينزله الله عز وجل لمجرد التلاوة والقراءة، بل أنزل لنقرأه ثم نفهمه ونتدبره، كما قال عز وجل أم لم يدبروا القول، أو قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آيات من القرآن في قيام الليل فيكررها، يعني يكرر الآية الواحدة يكررها عدة مرات قبل أن يأتي إلى ما بعدها من الآية ومن السور. لماذا؟ لأنه يتفهم معناها، يتدبر معناها حتى تتأثر يعني حياتنا وعبادتنا بقراءتنا للقرآن، ولا تكون مجرد قراءة وتلاوة بدون فهم للمعنى. فنقرأ إن شاء الله تعالى. فقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى العبودية لله نوعان: عبودية لربوبيته، فهذه يشترك فيها سائر الخلق، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون، كما قال عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. يعني المقصود من هذا الكلام أن كلمة العبد أو العبادة أو العبودية يقصد منها شيئان، شيء عام وشيء خاص. المعنى العام يدخل فيه كل الخلق حتى الكافر، حتى الكافر يقال عنه هو عبد لله عز وجل. بأي معنى؟ لأنه تحت ربوبية الله سبحانه وتعالى، لأنه مخلوق لله عز وجل وملك لله عز وجل، والله هو الذي يدبر كل شيء، فهو تحت تدبير الله سبحانه وتعالى. فبهذا المعنى كل الخلق عبيد لله سبحانه وتعالى، كما قال في هذه الآية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، حتى الكفار هم عبيد لله سبحانه وتعالى، لكن بأي معنى؟ بمعنى هم عبيد تحت ربوبيته، تحت تدبيره وملكه. وعبودية لألوهيته وعبادته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه. يعني المعنى الخاص، المعنى الثاني للعبودية أو لكلمة العبد، هو معنى خاص لأولياء الله سبحانه وتعالى الذين هم تحت ربوبيته وتدبيره، وكذلك هم تحت أمره الديني والشرعي. يعني هم اختاروا أن يهتدوا وأن يقتادوا بأمره الشرعي والديني، يعني يتبعوا الدين والإيمان. وهي المراد هنا، يعني هذه الآية عباد الرحمن، طبعا موضوعها ليس كل الناس، إنما هم الذين سيأتي وصفهم وهم أولياء الله سبحانه وتعالى. Donc là, on va lire, inshallah ta'ala, un peu de tafsir. يعني parce que ça fait une bonne موعظة. Le tafsir dans Surat Al-Furqan, qui n'est pas les versets que le frère il a lu tout à l'heure, jazakallahu khairan, qui commence par Wa'ibad al-Rahman, donc dans laquelle il y a la description des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il explique déjà quand il dit Wa'ibad al-Rahman, l'ibada ou alors l'abd, c'est-à-dire le serviteur ou l'adoration, elle peut s'appliquer à deux significations dans la langue arabe ou dans le Coran. Une signification générale et une signification particulière. C'est-à-dire, tu peux dire abd ou le ubudiya pour tout le monde. Et tout rentre dans le ubudiya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le monde est abd, c'est-à-dire est un serviteur d'Allah dans le sens où il est soumis aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est soumis au destin d'Allah. Et il est une créature d'Allah et il appartient à Allah. Dans ce sens-là, tout le monde est le abd d'Allah. Même les non-musulmans, ils sont abid, c'est-à-dire chacun d'entre eux, on peut les appeler abd, parce que même celui qui n'a pas choisi de se mettre dans la religion, il est soumis au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'est qu'une créature d'Allah. Donc dans ce sens-là, tout ce qu'Allah a créé est abd, c'est-à-dire est soumis à Allah. Et une autre signification qui s'applique que pour les musulmans qui sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est abd dans le sens celui qui s'est soumis à Allah et qui s'est soumis à sa religion. Il n'est pas seulement soumis au destin d'Allah et à sa gérance de l'univers, mais il s'est soumis, il a choisi aussi de se soumettre à l'ordre d'Allah qui est l'ordre religieux, qu'on peut choisir de suivre ou de ne pas suivre. C'est-à-dire chacun il choisit s'il veut être musulman ou s'il veut être kafir et partir en enfer. Donc eux ils ont choisi. Donc ceux-là des fois ils s'appellent Abdullah, c'est-à-dire ce qui est voulu par là, Abidullah ou Abdullah ou l'Ubudiya, c'est-à-dire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala par la religion que la personne a choisie. C'est-à-dire le fait qu'elle ait choisi d'emprunter l'adoration et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala.
ولهذا أضافها إلى اسمه الرحمن إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته سبحانه وتعالى فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا. يعني لماذا قال عنهم عباد الرحمن؟ لأن هذه الصفات التي ستأتي في الآيات وفي التفسير، يعني كيف استفادوها ومن وفقهم إلى تحصيل هذه الصفات وإلى التخلق بهذه الأخلاق، إنما هو الرحمن سبحانه وتعالى. فصفاتهم هذه إنما هي من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، فلذلك سموا عباد الرحمن إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الله من رحمته سبحانه وتعالى يوفق عباده المؤمنين وييسر لهم الإيمان والأخلاق والعبادة والاتصاف بهذه الصفات العظيمة المذكورة في هذه الآيات، لذلك سموا عباد الرحمن. وكذلك فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يتأثر بصفات، يعني بما يذكر من صفات الله سبحانه وتعالى. يعني حتى أوضح، الله الرحمن الرحيم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحمن الرحماء يرحمهم الرحمن، يعني أن الله الرحمن الرحيم ويحب من عباده أن يكونوا رحماء. والله عليم ويحب من أوليائه وفضلهم ورفعهم من العلماء. والله صبور لا أصبر من الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث، لأن العباد ومنهم أهل الكتاب يسبونه ويضيفون وينسبون إليه الولد ومع ذلك يرزقهم، فلا أصبر من الله، والله يحب الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله حكيم ويحب من عباده أن يستعملوا الحكمة. وهكذا والله عدل من أسمائه سبحانه وتعالى العدل، والله يحب من عباده أن يستعملوا العدل ولا يظلموا. وهكذا يعني الله عز وجل يحب من عباده أن يتأثروا بصفاته سبحانه وتعالى. والله حليم ويحب من عباده أن يعفو ويحلم غيرهم. والله عفو ويحب من عباده أن يعفو ويصفح. وهكذا والله كريم ويحب من عباده أن يتصفوا بالكرم إلى آخره. يعني لا نأتي بكل الأسماء والصفات، المعنى يعني المقصود مفهوم. Donc pourquoi il les a appelés Ibad al-Rahman, les serviteurs de al-Rahman? Premièrement, c'est pour comprendre que c'est pour attirer notre attention sur le fait que s'ils ont atteint ces degrés qu'ils ont, s'ils ont toutes ces qualités qu'ils ont, qui vont être citées dans les versets, c'est parce que c'est al-Rahman qui les a facilités. C'est-à-dire qu'il fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il guide ses serviteurs croyants et il leur facilite le chemin pour avoir des comportements comme ça et pour avoir des qualités comme ça. Donc la foi, le comportement, l'adoration. Et donc tout ce qu'ils ont comme qualités, qui vont être citées dans les versets, ça ce sont des traces de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures. Et aussi, une autre raison qu'on peut dire, c'est qu'Allah azza wa jal aime que ses serviteurs empruntent, si on peut dire, les significations des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que les qualités d'Allah aient un impact sur eux, pour mieux comprendre. Allah s'appelle Ar-Rahman Ar-Rahim. Et il aime dans ses serviteurs Ar-Ruhama, ceux qui font miséricorde aux autres, comme il est cité dans le hadith. C'est-à-dire, faites miséricorde, celui qui est miséricordieux, il vous fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel, il vous fera miséricorde. Un autre exemple, Allah est sabour, c'est-à-dire il est patient, subhanahu wa ta'ala, comme il a été cité dans le hadith, qu'Allah est patient. Et personne n'est plus patient qu'Allah. Pourquoi? Parce que les kuffars, ils l'insultent, et notamment en disant qu'il a des enfants, comme le font les juifs et les chrétiens, et pourtant ils continuent à leur donner leur risque, c'est-à-dire leur subsistance tous les jours. Et il aime dans ses serviteurs les patients. Comme il a dit dans le verset, les patients, ils reçoivent leur récompense pleinement. Ou alors Allah Azza wa Jal, parmi ses noms, il y a l'adl, c'est-à-dire celui qui est équitable, qui est juste. Et il aime de ses serviteurs qu'ils soient équitables et qu'ils soient justes. Il n'aime pas qu'ils commettent de l'injustice. Allah est hakim. Et il aime de ses serviteurs qu'ils utilisent l'hikma, c'est-à-dire la sagesse. Allah est alim, c'est-à-dire il est, entre guillemets, savant. Et il aime dans ses serviteurs et il a élevé en degré les ulama, les savants, etc., etc. Donc ceux-là, dont on va lire les caractéristiques, ils se sont imprégnés de la rahma. C'est-à-dire ils ont adopté ce caractère qui est ar-rahma, la miséricorde.
فَوَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا أي ساكنين متواضعين لله وللخلق. فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده. فلاحظ يا عبد الله أنهم لا يتواضعون لله فقط، كما قد يحصل من بعض العباد أو الزهاد، يعني مما يرون في أنفسهم من شدة التعبد لله سبحانه وتعالى يتكبرون على غيرهم، وهذا خطأ. والمراد والمفروض هو العكس، أن الإنسان كلما ازداد إيمانا وعبادة لله عز وجل ازداد ماذا؟ تواضعا مع الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو سيد ولد آدم، ومع ذلك كان متواضعا، يمشي يسلم على الأولاد، يسلم على النساء، يمشي مع الفقراء، يردف غيره بمن يكون أصغر منه سنا على الحمار، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه،
وهكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الصالحين وإمام الصالحين، ومع ذلك كان أكثر الناس وأشد الناس تواضعا مع الله ومع الناس، ليس فقط مع الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء عباد الرحمن عندهم من الخلق أنهم ساكنون متواضعون، إذا تكلموا لا تكاد تسمع صوتهم. Donc ici il a dit le premier, la première caractéristique, يمشون على الأرض هونا, c'est-à-dire ils marchent sur terre avec calme ou avec légèreté. Cheikh il explique, il dit ça veut dire ils sont calmes et ils sont modestes envers Allah et ils sont modestes envers les gens, envers la créature d'Allah. Donc c'est-à-dire, comme il l'a dit, ils sont calmes et ils sont modestes. Donc regarde bien que ils sont pas juste modestes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont modestes avec Allah et ils sont aussi modestes avec les gens. Pas comme parfois Iblis, il peut tromper certaines personnes qui sont dans la religion, parce que comme la personne elle se voit dans la religion, elle se croit mieux que les autres et elle se monte au-dessus des autres. Et elle commence à devenir orgueilleuse avec les autres. Ça c'est une grosse erreur. Normalement c'est l'inverse que tu dois faire. Plus tu es dans la religion et plus tu es bon dans l'ibada, dans l'adoration d'Allah, plus tu dois être humble envers et modeste envers les gens. Et regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le plus pieux bien sûr, et qui était le guide de tous les pieux, et qui était le chef ou le meilleur de tous les êtres humains. Et pourtant, quand il passait devant des enfants, il disait salam alaykoum. Et aussi c'est rapporté qu'il a dit salam à un groupe de femmes. Ou alors, sallallahu alayhi wa sallam, il montait sur un âne. Non seulement il monte sur un âne, et en plus il met quelqu'un derrière lui, qui est plus jeune que lui. C'est-à-dire, il marchait avec les pauvres, il s'asseyait avec les pauvres. Beaucoup de choses qui montrent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était modeste. Il était humble. Donc quand tu rentres à la mosquée, c'est pas parce que tu as commencé à lire deux ou trois livres que tu peux lever ta tête. C'est celui qui lit le plus de livres qui doit le baisser le plus sa tête. Si vraiment on avait compris la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, en fait, eux ils sont calmes, c'est-à-dire ça fait partie de leur caractéristique, c'est qu'ils sont calmes, et c'est-à-dire ils baissent la voix, ils sont calmes, quand ils marchent ils sont calmes, dans leur comportement ils sont humbles, ils sont calmes, et ils sont sereins.
وَإِذَا خَاطَبَهُمْ لَكِنَ هَذَا يَعْنِي التَّوَاضُعُ وَهَذِي السَّكِينَ لَا تَعْنِي أَنَّهُمْ يَتَصَنَّعُونَ. يعني مثلا شاب قوي يتصنع ليظهر أنه زاهد، يعني يتصنع يمثل، هو قوي شاب قوي ويمشي كأنه مسكين ضعيف، ليس هذا هو المعنى، ليس هذا هو المراد بالتواضع وبالسكينة، إنما هو المراد بالسكينة أنه يمشي ولا يتصنع، يعني لا يزيد ولا ينقص. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى مشى بقوة وكان يمشي سريعا صلى الله عليه وسلم. فالمراد هو الخلق الحسن مع الناس ومع الخلق، ليس المراد التصنع وأن تكون ضعيفا في جسمك، ليس هذا هو المراد. Donc aussi il faut dire que quand on dit ici qu'ils sont calmes, ils sont modestes, ça ne veut pas dire que tu fais semblant. Toi par exemple tu es jeune, tu es en bonne santé et tu te forces à marcher comme un mesquin, tout faible, etc. Pour montrer une image que toi, tu es un zahid ou tu es un pieux, etc. C'est pas ça qui est voulu ici. Au contraire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il marchait vite et il marchait avec force. Mais calme, c'est-à-dire, il élève pas sa voix comme un bédouin à l'époque. Ou alors, il se comporte bien aussi envers les gens. C'est ça qui est voulu ici par sakina et tawadu.
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ أي خِطَابَ جَهْلٍ بِدَلِيلِ إِضَافَةِ الْفِعْلِ وَإِسْنَادِهِ لِهَذَا الْوَصْفِ قَالُوا سَلَامًا أي خَاطَبُوهُمْ خِطَابًا يَسْلَمُونَ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ وَيَسْلَمُونَ مِنْ مُقَابَلَةِ الْجَاهِلِ بِجَهْلِهِ وهذا مدح لهم بالحلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال. يعني وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يقول الشيخ قالوا قولا يسلمون به، يعني بهذا القول، من فعل أو من خلق هؤلاء الجاهلين.
يعني إذا خوطبوا بالجهل، والجهل ليس فقط عدم العلم، الجهل يكون معناه عدم العلم ويكون عدم الحلم، يعني سوء الخلق يسمى جهلا في اللغة العربية، وعدم العلم كذلك يسمى جهلا. فإذا عوملوا أو خوطبوا بخلق سيء أو كلام يعني لا ينبغي لا يردون بمثله. ولا نحتاج أن نطيل الكلام في هذا، وإنما نأتي بمن قال عنه الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. روت عائشة رضي الله عنها أن قوما من اليهود مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم يعني اليهود عداوتهم للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يحبون أن يؤذوا المسلمين حتى بالقول، هذا معلوم منهم ومن صفاتهم، ومعلوم حتى في القرآن، بدلا أن يقولوا حطة ماذا يقولون؟ حنطة، يعني يستهزئون بالله سبحانه وتعالى، يبدلون. المهم، مر قوم يعني طائفة من اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت معه عائشة رضي الله عنها، فقالوا: السام عليك يا محمد. ما معنى السام؟ السام في اللغة العربية هو الموت، لكن الإنسان إذا قال لك السام عليكم أنت تظن أنه قال السلام، لأنك لا تميز، لأن لفظ السام قريب من لفظ السلام، فهم قالوا السام بمعنى الموت عليك يا محمد، هذا كلام قبيح قبحهم الله. فقالت عائشة: وعليكم السام واللعنة، يعني هي زادت، وهم قالوا السام هي زادت اللعنة على السام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. يعني أنكر على من؟ على عائشة رضي الله عنها، لأنها ردت بهذا الكلام السيء وزادت واللعنة. فقالت رضي الله عنها، وفي الحقيقة هذه الحادثة مدح لعائشة، لأنها يعني هذه الحادثة تدل على أنها كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، حتى تدافع عنه أمام رجال من اليهود. فقال لها صلى الله عليه وسلم، يعني لما قالت: ألم تسمع إلى ما قالوا، يعني هم قالوا السمع عليك، ألم تسمع يا رسول الله؟ قال: سمعت، ولكن قلت وعليكم. يعني لما قالوا السام عليك يا محمد قال وعليكم، لم يكرر السام، يعني كان له أن يقول وعليكم السام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يخرج من فمه كلام مثل هذا الكلام كالسب وغير ذلك، فقال وعليكم واكتفى بهذا. انظروا يعني هذا العفو، هذا الخلق العالي. Ensuite, il a dit: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. C'est-à-dire quand les ignorants. En fait, ici, c'est pas ignorant. Parce que le jahl en arabe, ça peut vouloir dire ne pas savoir. C'est l'ignorance. Et ça peut vouloir dire mal se comporter. Donc ici, ce qui est voulu, c'est ignorant dans le sens où ils se comportent mal. Donc quand les ignorants leur parlent, eux, ils répondent salam. Salam, ça veut dire la paix ou quelque chose comme ça. Le shir, il explique, il dit c'est quand on leur parle mal et on se comporte mal avec eux, eux ils répondent par des paroles qui ne comportent pas de mal. C'est-à-dire eux ils se préservent des mauvaises paroles et du mauvais comportement, même si on le fait avec eux. Et ça, yani, on n'a pas besoin de s'étendre, il suffit de ramener un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant qu'Allah dit à propos du prophète que c'est une uswa hasana, c'est-à-dire c'est un bon exemple pour les croyants. Donc dans les sahih, il est rapporté de Aïcha radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc elle était avec lui et un groupe de juifs sont passés devant lui et ils lui ont dit assalamu alayka ya Muhammad, c'est-à-dire quand je te dis assalamu alayka, toi tu crois que j'ai dit salam, mais en fait ils n'ont pas dit salam, ils ont dit assam, et sam en arabe c'est la mort, donc c'est comme s'il lui avait dit que la mort soit sur toi. Donc, et ça c'est connu de leur part. Ils aiment changer les mots. Comme quand Allah leur a dit de dire hitta, eux ils ont dit hinta, ça veut dire du blé. Ou le dire le pardon d'Allah, ils ont dit du blé. Etc. Comme c'est connu de leur part dans le Coran. Et donc ils ont dit assalamu alaykum. Et Aïcha radiallahu anha, parce qu'elle était, elle aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a répondu wa alaykum assalam wa la'na. C'est-à-dire, et sur vous la mort et la malédiction d'Allah. Elle a rajouté la malédiction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit doucement, ô Aïcha. Et Allah aime la douceur dans toutes choses. Donc elle lui a répondu, radiallahu anha, elle a dit n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? C'est-à-dire, ils t'ont dit sam. Elle a cru que peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas distingué qu'ils avaient dit sam. Et il a répondu j'ai entendu, mais je leur ai dit wa alaykum. C'est-à-dire, il dit oui, j'ai entendu qu'ils m'ont dit sam. Mais j'ai répondu vous aussi. Donc il n'a même pas répondu et sur vous aussi la mort. Il aurait pu répondre le même mot. Mais même le même mot, il n'a pas voulu le dire. Il a juste répondu et sur vous aussi. Parce qu'il n'aimait pas, sallallahu alayhi wa sallam, que des mauvaises paroles, elles sortent de sa bouche. كيف المسلمون في الشارع يلعنون ويسبون ويسبون الأمهات ويلعنون حتى الدين أو يسبون الله عز وجل كما قال بعض العلماء ألم تجد غير الخالق يعني أنت تريد أن تسب يلا سب لكن لم تجد غير الله عز وجل يعني الناس مليون هناك محمد وفريد وكامل ومحمود وزيد وعمر وفلان وعلان وأنت تسب الله عز وجل لو سببت مسلما يكون فسقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق فكيف سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم بل أجمع العلماء يعني بدون خلاف بين العلماء يعني نفتح قوسين وهذا تنبيه مهم جدا يعني لا بد أن ننبه الناس على أخطائهم لا سيما مثل هذه الأخطاء التي بدون أن يشعروا تخرجهم من دائرة المسلمين العلماء أجمعوا على أن الذي يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم كافر وإن سمي محمد وإن صلى الخمس في المسجد وإن زكى وإن حج وإن اعتمر وإن 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 كانت لحيته إلى قدميه هذا كافر بمعنى أنه لو مات لا ندفنه مع المسلمين هل تتصورون هذا لا نصلي عليه لا نغسله وهذا ليس يعني من كلام فلان أو فلان كل العلماء أجمعوا على ذلك يعني هذا الكلام خطير جدا إنسان يسب الله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم معنى أنك لا تحب الله أو لا تحب النبي يعني هذا كلام يعني حتى العقل ما يقبله أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم تسب الله أو تسب النبي إذن لا تشهد أنه رسول الله يعني من مقتضى شهادتك أن محمد رسول الله أن تحبه أكثر مما تحب نفسك أكثر مما تحب والد الوالد والوالدة والأولاد والإخوان والأصدقاء وغيرهم. Donc là j'ai ouvert une parenthèse sur ceux qui insultent Allah Azza wa Jal. Parce que malheureusement, là on a vu le hadith. Mais les musulmans maintenant, si on écoute dans la rue, c'est loin de ça. Quelqu'un il va leur dire juste comme... ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, juste tu klaxonnes, lui, c'est pas que tu l'as insulté, seulement tu klaxonnes parce qu'il t'arrête la route, lui, il t'insulte, ou il te fait des signes. Sans que tu l'insultes, il t'insulte. C'est pas seulement qu'on répond, c'est on rajoute, ou alors même des gens, ils n'ont rien fait, on va les insulter. Et on insulte les mères, et on insulte les pères. Et le pire, on insulte Allah Azza wa Jal, ou on insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des gens, c'est tous les jours. Ouais, il fait un match de foot, il se fait mal à la cheville, hop, j'insulte Allah. Il est sur une échelle, il rate une marche, hop, j'insulte Allah. L'autre est en retard à son rendez-vous, j'insulte Allah. Comme ils ont dit certains ulama, est-ce que tu as trouvé personne d'autre qu'Allah à insulter? Les gens, ils sont des millions. Tu ne pouvais pas insulter. Admettons que tu insultes. Tu ne pouvais pas insulter Zayd ou Amr. Tu faut que tu insultes le créateur, Al-Bari Azza wa Jal. Ou tu insultes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait combien de batailles pour que le Risala elle arrive jusqu'à toi sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulama sans divergence entre les quatre madhab, ils disent celui qui insulte Allah Azza wa Jal, ou celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui se moque de lui, il sort de l'islam. C'est-à-dire, ce n'est pas un musulman. Même s'il prie, il donne sa zakat, etc., ce n'est pas un musulman. Et ça, c'est chez Ahlus Sunnah wa Jama'a. Ce n'est pas des paroles de un tel ou un tel. Ça, c'est dans les quatre écoles juridiques. Et notamment l'école malikite. Celui qui insulte Allah, qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça n'est pas un musulman. Ça veut dire, demain, il meurt, on ne le lave pas, on ne prie pas sur lui et on le jette. On ne l'enterre pas avec les musulmans. Si on est dans un pays musulman, c'est ça que ça veut dire. Donc comment après quelqu'un il peut s'amuser à dire ça tous les jours? T'as rien trouvé d'autre à dire, subhanallah.
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا أي يُكْثِرُونَ مِنْ صَلَاتِ اللَّيْلِ مُخْلِصِينَ فِيهَا لِرَبِّهِمْ مُتَذَلِّلِينَ لَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يعني الفراش يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يعني هذا خلقهم في النهار مع عباد الله وهذا خلقهم في الليل ماذا يفعلون يعني لا يمضون الليل في النوم أو في اللهو أو مشاهدة التلفاز أو الغيبة والنميمة إنما هم يبيتون لربهم سجدا وقياما ولا شك أن هذا فيه صعوبة ولكن لو تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكان الأمر أسهل وأخف والسنة منها أنك تنام مبكرا يعني لا تبقى بعد العشاء تتكلم وتغتاب وتنظر إلى التلفاز إلى أشياء لا فائدة فيها بل المراد من المسلم أن يبقى في بيته بعد العشاء مبكرا ينام حتى يستيقظ أقل تقدير لصلاة الفجر مع الجماعة والأحسن طبعا حتى يكون من عباد الرحمن أن يصلي ما تيسر له من الركعات والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كل ليل بل كان يصلي حتى تتشقق قدماه بل كان يقرأ في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران والنساء صلى الله عليه وسلم. Donc ensuite il a dit, et ceux qui passent la nuit devant leur Seigneur prosternés et debout, c'est-à-dire en prière. Ça veut dire que ces gens-là, Ibad al-Rahman, ils font beaucoup la prière la nuit. Donc ils passent pas la nuit devant la télé ou à discuter ou à faire la médisance, mais ils consacrent une partie de la nuit. Pourtant Allah Azza wa Jalla a dit à propos de la nuit, wa ja'alna lakum an-nawma subata, yani istiraha. On a fait pour vous du sommeil un repos, mais malgré ça, ils prennent une partie du temps de repos pour le mettre dans l'ibada, c'est-à-dire dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, le meilleur exemple, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui priait toutes les nuits et qui priait jusqu'à ce que ses pieds, la peau de ses pieds, elle se fendait. Et quand Aïcha lui a dit, il a dit, est-ce que je ne vais pas être quelqu'un qui remercie, de reconnaissant envers Allah, par simple reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il priait jusqu'à ce que ses pieds ils soient blessés. Et il priait, sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'ont rapporté plusieurs des compagnons, comme Ibn Mas'ud ou comme Al-Mughira. Et dans une seule raka'a, il a lu Al-Baqara, Al-Imran et Al-Nisa. Nous, on ne te demande pas de lire Al-Baqara, Al-Imran et Al-Nisa. Lisabbih li hal ataka hadithul ghashiya. Li wal asr. Fais 4 raka'a. Fais 6 raka'a. Et après, t'en fais une. On ne t'a pas demandé 2 heures avec Al-Baqara. Mais au moins 2 raka'a, 4 raka'a avec le witr à la fin. Donc là, il a cité un autre verset où Allah Azza wa Jal dit que, à propos des croyants, que leur flanc, il bouge du lit, c'est-à-dire il s'écarte du lit, c'est-à-dire qu'il se lève la nuit par peur et par espoir. C'est-à-dire à la fois ils se lèvent parce qu'ils ont peur de l'enfer et aussi parce qu'ils veulent le paradis. Et après, dans le verset d'après, qu'est-ce qu'Allah il a dit ? Aucune âme ne sait ce qu'on a réservé pour eux
c'est-à-dire dans le paradis, des récompenses que personne ne peut s'imaginer. Et aussi, ça, on peut dire, c'est quelque chose qui est dur et qui est lourd, le fait de prier la nuit. Mais si les gens, ils ont prêté la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans leur vie, ça serait moins lourd, parce qu'il fait partie de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de se coucher tôt. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il se couchait un peu après l'Isha. C'est-à-dire, il ne parlait pas beaucoup après l'Isha. Il parlait s'il avait une affaire, comme avec Abu Bakr ou Omar, ou alors avec ses femmes. Les paroles que tout le monde va dire avec ses femmes quand il est à sa maison, sans plus. C'est-à-dire, c'est pas là qu'il commence comme nous maintenant au fait. C'est après l'Aïcha qu'on commence la journée. L'Aïcha est beau, maintenant je vais voir mes amis, maintenant je vais sortir, maintenant je vais faire. Normalement, c'est là la fin. Tu fais demain matin. C'était ça la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si on regarde, il y en a pour eux, parce que quelqu'un il va me dire, ouais, mais en hiver, l'Aïcha est à 6 heures. Je peux me coucher à 7 heures. Non, c'est vrai. Parce que si on regarde l'Aïcha en Arabie Saoudite, il ne change pas beaucoup. Entre l'hiver et l'été, il change à peu près d'une demi-heure. Et l'été, il va être, par exemple, si je me souviens bien, c'est à 8h ou 8h30, l'Aïcha. Donc tu comptes que à peu près le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, 21h, 21h30, ça y est, il était couché, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça ne veut pas dire ici, si l'Aïcha, il y a 6 heures, je me couche à 6h30. C'est vrai, parce qu'après on va se lever à minuit, qu'est-ce qu'on va faire? Mais yani, ça veut dire qu'on se couche, de façon globale, on se couche tôt. 9h, 10h, etc.
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا أي ادفعه عنا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتضى للعذاب. يعني كونهم يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم يعني يعتصمون يتعوذون بالله سبحانه وتعالى يطلبون منه أن يعصمهم من جهنم ومن الأسباب التي تدفعك وتجرك إلى جهنم. ما هي هذه الأسباب؟ الذنوب، الذنوب والكفر والشرك وغير ذلك، يعني السرقة والزنا والسب والغيبة والنميمة وغير ذلك من الذنوب التي هي كثيرة جدا. إذن كأنهم يقولون يا رب سهل لنا أن نجتنب ما نهيت عنه حتى لا ندخل في جهنم. إن عذابها كان غراما أي ملازما لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه يعني بمنزلة المدين للدائن هذا هو المعنى. Ensuite il a dit et ceux qui disent ô notre Seigneur, c'est-à-dire ils demandent à Allah écarte de nous le châtiment de l'enfer parce que son châtiment il est garanti. C'est-à-dire que ces gens-là, ils demandent à Allah la protection contre l'enfer. Ils ne sont pas insouciants. Yani la yasu ghafilin an adhabillah subhanahu wa ta'ala. La yamdi alayhim nahar aw layl illa wa hum yad'un Allah ya'tasimuna billah min adhabihi subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ils ne passent pas un jour ou une nuit sans demander qu'Allah les protège de son châtiment. Ils ne sont pas insouciants. Ils n'oublient pas le châtiment d'Allah. Et quand ils demandent à Allah d'être écartés de l'enfer, ça implique aussi qu'ils soient écartés des asbab, c'est-à-dire des causes qui te font entrer en enfer. Parce que quand tu demandes une chose à Allah, tu demandes la protection contre une chose, c'est contre cette chose et contre tout ce qui peut y mener. Donc eux, ils demandent à Allah de les protéger de l'enfer, et en même temps, ça veut dire qu'ils demandent à Allah de les aider à ne pas commettre les péchés qui vont les mener vers l'enfer. Donc c'est comme s'ils disaient à Allah, écarte-nous de ton châtiment et écarte-nous de tes interdits qui nous mènent à ton châtiment. Après, il a dit « Inna adhabaha kana gharama ». C'est-à-dire, le châtiment d'Allah, il est... C'est comme une garantie. C'est comme quelque chose qui est dû. Comme quelqu'un qui a une dette, il le doit à celui qui lui a donné l'argent.
« Innaha sa'at mustaqarran wa muqama wa hadha minhum ala wajid tadarru'i li rabbihim. » Yani, « Hum yakhtimuna addu'a yaqulun ba'da an qalu rabbana sarif anna adhaba jahannam yaqulun inna adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama wa hadha minhum ala wajhi tadarru'i li rabbihim. Yani bihadha al-kalam ka'annahum ya'tarifun
أنهم مستسلمون متضرعون متذللون لربهم سبحانه وتعالى وبيان شدة حاجتهم إليه. يعني بهذا الكلام إذا قالوا لله اصرف عنا العذاب إنه كان غراما ساءت مستقرا ومقاما كأنهم يشتكون لله ويظهرون لله حاجتهم وفقرهم إليه والله هو الغني ونحن الفقراء, يعني نحن بحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الله فهل يحتاج إلى أعمالنا؟ لا, إنما يجازينا على أعمالنا الصالحة ويعذبنا ويؤاخذنا على السيئة. وأنهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب وليتذكروا منة الله عليهم فإن صرف الشدة بحسب شدتها وفظاعتها يعظم وقعها ويشتد الفرح بصرفها. Donc ensuite ils disent à la fin de leur doua, إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Ça veut dire quel mauvais endroit, l'enfer, quel mauvais endroit où rester. مُسْتَقَر, ça veut dire l'endroit où tu vas rester. À la fin de leur doua, ils disent quel mauvais endroit où rester, quel mauvais lieu où habiter. C'est-à-dire le shir, ils disent ça pour s'humilier, pour se soumettre à Allah. تَضَرُّعْ, c'est-à-dire c'est comme pour montrer à Allah qui sont humiliés, ils sont soumis à lui. Donc ils disent ton châtiment, c'est vrai, il est trop dur, il est insupportable. Donc c'est pour exprimer leur besoin de la miséricorde d'Allah. Parce qu'Allah, parmi les noms d'Allah, il y a Al-Ghani, c'est-à-dire celui qui est, il n'a pas besoin des autres, c'est ça Al-Ghani. Et les êtres humains, ils sont tous, chacun d'entre eux, il est faqir. C'est l'inverse, c'est-à-dire il a besoin. Donc eux, ils expriment ce besoin qu'ils ont d'Allah subhanahu wa ta'ala.
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.
يعني هذا موضوع غير الصلاة وغير الخلق وغير الدعاء, يعني شيء آخر الإنفاق. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا, يعني النفقات الواجبة والمستحبة, يعني النفقة الواجبة كالزكاة مثلا أو النفقة على الزوجة والعيال. لم يسرفوا, يعني بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير وإهمال الحقوق الواجبة. وقال عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يعني هم إذا أنفقوا ينفقون بالمعروف ولكن لا يزيدون بحيث ينفقون فيما لا فائدة فيه ثم ينقصون في إنفاق من يستحق أن ينفق عليه. هذا هو المعنى, يعني الإنسان أحيانا يبذر في بعض الأشياء ثم يهمل أمه ثم يهمل أباه يهمل أولاده إلى آخره. وهذا كثير مثلا في الناس, هذا تنبيه آخر, الذين يبنون البيوت في البلاد, يعني في بلادهم الأصلي. هذا شيء طيب, يعني لما ترجع في الصيف أو ربما عند التقاعد أو ربما أولادك يرغبون أن يرجعوا إلى بلاد مسلمة, ولكن كونك تكثر من هذا ثم تضيع أولادك هذا يعني لا ينبغي. كم نرى من الآباء يبنون البيوت يعني في بلادهم الأصلية, بيت ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع, ثم ولده يسرق. لماذا يسرق؟ يعني لأن أصحابه عندهم ملابس جميلة وهو ما عنده ملابس طيبة, ملابسه يعني صارت يستحي منها, هذا ما يصلح. يعني كيف تبذر وفي نفس الوقت تهمل, تهمل من له حق عليك وهو الإنفاق, أو تهمل الزوجة.
ولم يقتروا, يعني لم يبخلوا, فيدخلوا في باب البخل والشح, وكان إنفاقهم بين ذلك يعني بين الإسراف والتقتير قواما, فيبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة وفيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار, وهذا من عدلهم واقتصادهم. يعني الضرر هو الضرر بقصد, والضرار هو الضرر بغير قصد, وهذا من عدلهم واقتصادهم, فهم في العدل والاقتصاد في نفس الوقت, لا يبذرون ولا يبخلون.
وكثير من الناس لا يفهم أن الإنفاق على الأهل يعني الزوجة والأولاد وغيرهم والأقارب يكون بمعروف. يعني بعض الناس مثلا للغداء يقدم للزوجة رز بدون لحم بدون خضار بدون شيء بدون فواكه بدون شيء بدون خبز ويقول خلاص أنا أطعمتها حقها علي أن أطعمها أنا أطعمتها. هذا ليس بصحيح. حقها عليك أن تطعمها بالمعروف. ما معنى المعروف؟ يعني في إطعامها تتبع العرف عرف الناس. هل من عرف الناس أن تقدم لها رز بدون شيء؟ يعني كل إنسان يفعل مثل هذا الشيء الناس يسخرون منه يضحكون عليه يقولون هذا بخيل هذا شحيح. فيعني لنفهم أن الإنفاق هو مقيد بالمعروف، يعني لابد أن ننفق بالمعروف. إذا أنفقت بالمعروف لا تعتبر مبذرا، لكن التبذير فيما يعني إذا أنفقت في الحرام أو في المكروه أو في الأشياء التي لا فائدة منها هذا هو التبذير وهو يعني الإسراف. Ensuite il a dit une autre caractéristique, ça n'a rien à voir avec celle qui a précédé. Il a dit et ceux qui quand ils dépensent ils ne font pas d'excès et ils ne sont pas avares mais ils sont entre les deux. Donc Cheikh il a expliqué, il a dit quand ils dépensent les dépenses obligatoires comme la zakat ou alors les kafara, c'est-à-dire les expiations qu'on doit faire soit pendant le Hajj, soit Ramadan, etc. ou quand on jure, ou alors les envers la femme et les enfants, ou alors aussi les dépenses qui sont mustahabba, c'est-à-dire qui sont recommandées. Lam yusrifu, c'est-à-dire ils ne dépassent pas la limite qui est fixée. C'est-à-dire ils ne vont pas dépenser par exemple après dans ce qui est interdit, ou dans ce qui est déconseillé, ou dans les choses dans lesquelles il n'y a pas de bénéfice. Ou alors ils vont faire ça et en même temps ils vont gâcher de l'argent dans des choses dans lesquelles il n'y a pas de bénéfice, et en même temps ils vont négliger ceux qui ont un droit sur eux, comme la femme et les enfants. Ça on le voit beaucoup par exemple dans notre vie actuelle chez les gens qui construisent au bled. Il y a un el insan, la personne elle fait une maison. On comprend, quand elle va l'été, elle veut avoir sa maison. Peut-être ses enfants ils aimeraient bien retourner habiter là-bas. Peut-être quand il va être retraité, il va retourner habiter là-bas. Ça c'est tout à fait normal. Et que la maison elle soit belle, etc. Mais la personne, tu vois, elle fait une deuxième maison. Peut-être même un cafard, il ne va jamais rentrer dedans. Et elle fait une troisième. Parfois elle fait une quatrième. Jamais personne n'y profite et son fils il s'en va voler des baskets. Pourquoi il vole ici en Belgique? Parce que son père n'a pas dépensé pour lui. Alors que tous ses camarades, tous les jeunes de son âge, ils ont des baskets, ils ont des vêtements, ils font du sport, ils ont six oreilles. Lui, mesquine, il n'a rien. Pourquoi? Parce que le père tellement isayir, comme on dit, pour ses maisons au bled, que le haq, le droit qui est obligatoire sur lui, il le néglige. Donc jamais il ne paye rien à sa femme, jamais il ne paye rien à ses enfants, au point où ses enfants ils s'en vont voler, ils s'en vont dealer, ils s'en vont, etc., etc. Ça on le voit beaucoup dans les quartiers. Et aussi, lam yaqturu, c'est-à-dire de l'autre côté, ils ne sont pas avares. Ils dépensent, ils sortent l'argent qui est demandé d'être sorti, que ce soit dans les dépenses obligatoires ou dans les dépenses qui sont recommandées. Et là, il y a quelque chose sur lequel il faut attirer l'attention, c'est que les dépenses, on les fait bil ma'ruf. Bil ma'ruf, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire de façon convenable. Des fois, il y a des personnes, c'est déjà arrivé, quelqu'un il se plaigne à moi, enfin à ma femme. Son mari, qui pensait être dans la religion, parce que ça, c'est pas la religion, il travaille, il y a un salaire, il y a tout ce qu'il faut. Et quand il vient le repas du midi, il lui met une assiette de riz. Sans légumes, sans viande, sans rien. Il achète des yaourts, il dit dans la journée tu prends un yaourt. Si tu prends un deuxième, tu vas voir ce qui va t'arriver. Quand elle se plaint à quelqu'un, ou quand elle se plaint à lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les hadiths ils disent, le haq que tu as sur moi, c'est-à-dire mon devoir envers toi, c'est que je te donne à manger, je te donne à boire et je t'habille. C'est ça mon haq. Donc je t'ai donné du riz, je t'ai donné à manger, t'as plus faim, khlas. Donc lui, il n'a pas compris ce que c'est « haqq al-zawja ». Parce que le infaq, le fait de dépenser, que ce soit pour la femme, pour les proches, pour les parents, il doit être bil ma'ruf. C'est quoi le ma'ruf? Ma'ruf, c'est ce qui est connu, c'est-à-dire ce que les gens y font. Nous, on n'est pas dans un environnement où les gens y mangent un plateau de riz sans rien dedans. Nous, on est dans un environnement où tout le monde y mange des légumes, de la viande, avec de la sauce, avec son yaourt, avec son, etc., etc. Si tu n'as pas fait ça, alors que tu as les moyens, là, tu es bakhil ou shahir. Tu rentres dans ceux qui sont avares et tu n'as pas accompli ton droit devant Allah subhanahu wa ta'ala envers ta femme et tes enfants. Et tu as penché dans ce qu'on appelle le roulou. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iyakum wal roulou ». Méfiez-vous de l'exagération dans la religion. Ça, c'est une exagération qui n'a aucune base dans la religion.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يعني هذا وصف آخر بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء مقبلين عليه معرضين عما سواه ما معنى حنفاء يعني مائلين تاركين للشرك مقبلين على توحيد الله سبحانه وتعالى ومعنى لا يدعون يعني ما معنى لا يدعون لا يدعون بمعنى لا يطلبون الدعاء بمعنى الطلب المعروف وكذلك لا يدعون بمعنى لا يعبدون الدعاء له معنيان الطلب والعبادة عموما حتى الصلاة تدخل في معنى الدعاء حتى الزكاة تدخل في معنى الدعاء بمعنى العبادة والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة في حديث أنس رضي الله عنه الدعاء هو العبادة فالدعاء كما جاء في حديث آخر حديث ضعيف مخ العبادة يعني من أظهر العبادات هو الدعاء يعني الإنسان يتضرع ويطلب الله عز وجل أن يقضي حوائجه هذا من أظهر العبادات فإذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وقال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إذا لا يجوز أن ندعو غير الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أحدا بمعنى أيا كان ولو نبيا ولو وليا ولو ملكا ولو سيدا إلى آخره ولو صالحا لا يجوز أن يدعى مع الله أحدا بل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وهذا هذا في حق الله الدعاء في حق الله وهذا في حق الخلق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وهي نفس المسلم والكافر المعاهد وكذلك الكافر المستأمن أو الكافر الذمي بل حتى الكافر الذي لا يحارب الإسلام غير الجندي لا يجوز أن نقتله أليس موسى عليه الصلاة والسلام لما قتل رجلا من قوم فرعون ندم على ذلك وقال إني فعلتها يعني لما قال له فرعون وفعلت فعلتك التي فعلت فقال موسى إني فعلتها إذن وأنا من الضالين يعني هل موسى قال هذا كان كافرا أنا قتلته بحق لا قال إني فعلتها إذن وأنا من الضالين بعد أن جاءته الرسالة من الله سبحانه وتعالى اعترف أن هذا القتل لهذا الرجل الكافر كان ظلما إلا بالحق يعني لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ما هو الحق؟ يقول الشيخ قتل النفس بالنفس وهذا طبعا للحاكم يعني الحاكم هو الذي يقيم مثل هذه الأشياء وقتل الزاني المحصن يعني الإنسان الثيب الذي يزني يعني تزوج من قبل أو هو متزوج ثم يزني سواء كان رجلا أو امرأة في بلاد إسلامية يرجم طبعا بالشروط يعني الشهود وغير ذلك والكافر الذي يحل قتله يعني كالمرتد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وطبعا هذا خطاب للحكام يعني ليس أفراد المسلمين يطبقون هذه الأشياء إنما يطبقها الحاكم المسلم يعني هو الذي يقيم مثل هذه الحدود إذا ارتد إنسان مسلم هو يقتله من؟ الحاكم أما أفراد المسلمين ليس عليهم ذلك
فالهذا مواجه إلى الحاكم. إن فعل فقد اتبع شريعة الله سبحانه وتعالى، وإن لم يفعل فهذا عليه، يعني نحن لا نبالي، يعني ليس علينا حسابه. ولا يزنون، وكذلك يعني بين قوسين يدخل في ذلك الساحر، يعني الساحر يدخل في قسم الكفار الذين يقتلون، يعني بفتوى ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وبنته حفصة وجندب الخير، يعني ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا بقتل الساحر. يعني الحاكم إذا اكتشف على ساحر يجب عليه أن يقيم عليه الحد، كما قال جندب الخير رضي الله عنه: حد الساحر ضربة بالسيف، أو ضربه بالسيف. وكان عمر كما جاء في صحيح البخاري كتب إلى بعض أمرائه، يعني في زمن خلافته رضي الله عنه، أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. ويقول الراوي القصة: قتلنا ثلاث سواحر، يعني النساء ساحرات. وكذلك حفصة أمرت بقتل أمة لها سحرتها، يعني هذا هو مآل الساحر في الإسلام. ومع الأسف أن في مجتمعنا الساحر يسمى طالب أو يسمى الفقيه، هذا ليس بفقيه، هذا أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى، أو هو فقيه، نعم فقيه الكفر، يعني يفقه كيف يشرك بالله سبحانه وتعالى، كيف يتعامل مع الجن والشياطين. بهذا المعنى نعم هو فقيه، لأنه تعلم الكفر والسحر والشرك، أو الناس يسمونه الطالب، أنا أذهب إلى الطالب وهو يكتب يعني أشياء لا تستطيع أن تفهمها، أو يقول لك مثلا خذ بيض، خذ كذا، خذ حديد، خذ هذه الكتابة ادفنه هناك تحت الشجرة الفلانية في المقبرة الفلانية، وهكذا. كل هذا من أعمال السحرة الفجرة الكفرة الذين كفرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، بمعنى كفروا بتعليمهم الناس السحر، فما بالكم بمن يواطئه ويفعله. ولا يزنون بل يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وإذا لاحظنا هذه الآية فيها كل الحقوق أو كل الظلم، يعني لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا في حق من؟ في حق الله سبحانه وتعالى. ولا يقتلون النفس، هذا في حق من؟ في حق الغير. ولا يزنون، وهذا في حق من؟ حق النفس على النفس. يعني الزاني من يظلم؟ إنما ظلم نفسه. القاتل ظلم غيره، والمشرك ظلم في حق الله، يعني طغى في حق الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الحقوق. ومن يفعل ذلك، أي الشرك بالله أو قتل النفس التي حرم الله بغير حق أو الزنا، يلقى أثاما، يعني كما قال بعد: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. دونك لي فيرسي دابري ساكلو عائشة Ah, c'est à moi 10. Donc les versets d'après, il a dit: ceux qui n'appellent pas la yad'oun, c'est-à-dire ils n'invoquent pas avec Allah une autre divinité. Donc ça c'est aussi une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala et ils lui vouent sincèrement la religion, exclusivement, c'est-à-dire leurs adorations, ils les vouent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces adorations, ad-du'a, la prière, le fait de demander. Ça fait partie des adorations les plus concrètes et les plus apparentes. Le fait qu'une personne, elle se mette à genoux, elle lève ses mains devant Allah et elle lui demande. Ça fait partie des plus pures adorations. Et comme il a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a, c'est-à-dire l'invocation, c'est l'adoration. Donc à partir du moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'invocation, c'est l'adoration, et on sait que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Donc on en comprend que celui qui viendrait à faire une dua à autre qu'Allah Azza wa Jal, quel qu'il soit, il l'aura associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il est interdit d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le trouve aussi dans le verset où Allah dit, les mosquées sont à Allah, donc n'invoquez personne avec Allah. Vous devez invoquer Allah seul. Et quand Allah a dit n'invoquez personne, ça englobe toute chose. Que ce soit un prophète ou un homme vertueux, même si les gens ils l'appellent Sidi Foulen ou l'Wali Foulen ou le Maoula Foulen, tu ne dois pas l'invoquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a, c'est une adoration qu'on ne doit vouer qu'à Allah seul. Et ensuite il a dit, et il ne tue pas une personne, si ce n'est, il ne tue pas une âme qu'Allah a interdit, illa bilhaq, sauf de bon droit. Donc le cheikh il explique, l'âme qu'Allah a interdit c'est comme le musulman, ou alors le mécréant qui a un pacte avec les musulmans, ou alors le mécréant qui est entré dans un pays musulman avec une autorisation du gouverneur, celui-là aussi. Comme le prophète il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui le tue, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Ou alors, Al-Dhimmi. Al-Dhimmi, c'est un non-musulman qui vit en terre musulmane et qui paye Al-Jizya. C'est-à-dire, il paye un impôt contre lequel il a le droit de pratiquer sa religion et il est protégé. C'est-à-dire, son honneur, ses biens et sa vie sont protégés par le gouvernement musulman. Hadha huwa l'islam. Yani, si on regarde certains peuples qui ont vécu dans les pays musulmans, leur mémoire elle est bien courte. Parce que eux, quand ils vivaient au Maroc ou ils vivaient dans certains pays musulmans, quand ils pouvaient réclamer au Qadi, hein, ils avaient des droits. On ne les tuait pas comme ça. Personne ne pouvait les tuer, les voler, etc., etc. Et regardez ce que eux maintenant ils font aux musulmans quand ils sont au pouvoir sur les musulmans. Alors que quand eux ils vivaient sous, ils ont jamais mieux vécu que quand ils vivaient sous les musulmans. Quand ils étaient en Europe, ils se faisaient massacrer de partout, ils se faisaient persécuter. Les seuls endroits où ils pouvaient vivre tranquillement, c'était dans les pays de l'islam. Pourquoi ? Parce que dans l'islam, il y a ce ahkam ahli dhimma, les règles concernant les gens des autres religions, qui interdisent aux musulmans de toucher à leur honneur, à leur bien ou à leur vie. Si ils payent al-jizya, qui est l'impôt. Mais leur mémoire, elle est bien courte. Si seulement ils respectaient les droits que les musulmans, ils leur ont respecté quand ils vivaient dans les pays musulmans, et jusqu'à aujourd'hui. Et aussi, donc, ça c'est dans les différentes sortes de kuffar. Mais même de toute façon, de façon générale, le kafir, qui n'est pas, c'est-à-dire en dehors d'une guerre entre les musulmans et les non-musulmans, le kafir qui n'est pas qui est en train de combattre les musulmans, l'islam, wallahu a'lam, interdit de le tuer. Puisque Moussa alayhi salam, si on regarde dans le Coran, Moussa alayhi salatu salam, il a bel et bien tué un mécréant du peuple de Pharaon. Donc qui était un peuple qui faisait de l'injustice envers les musulmans, envers Bani Israël, c'est-à-dire ceux qui suivaient Moussa. Et donc on sait que Moussa, il a tué un d'entre eux. Mais qu'est-ce qu'il a dit à propos de ce qu'il avait fait? Lorsque Pharaon lui a reproché, après qu'il ait reçu la révélation d'Allah, quand il est parti voir Pharaon, et Pharaon il lui a dit, tu as fait ton acte, c'est-à-dire, il a fait allusion au fait que Moussa, il avait tué quelqu'un, sans aucun droit. Qu'est-ce qu'il lui a dit Moussa? Est-ce qu'il lui a dit, oui, je l'ai tué, et c'était un kafir, je faisais ce que je veux? Il lui a dit, quand je l'ai fait alors que j'étais égaré. C'est-à-dire, il n'a pas reconnu son acte. Il a reconnu que son acte, c'était une erreur de sa part, et c'était une injustice. Et il en est revenu auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il rentre aussi dans ça, donc l'apostat. Donc ça, bien sûr, c'est dans les pays musulmans. Selon le hadith qui dit, celui qui change sa religion, tuez-le. Et ça, bien sûr, c'est un ordre qui s'adresse au gouverneur. C'est-à-dire que c'est le gouverneur qui applique ce genre de peine aux musulmans qui viendraient à quitter sa religion. Comme par exemple, comme on citait tout à l'heure, celui qui viendrait à insulter Allah ou insulter son prophète. Celui-là, il est sorti de sa religion. Donc ça serait ça, normalement, son sort dans un pays islamique. Mais il rentre dans ça, le sorcier. C'est-à-dire, le sorcier, il rentre dans celui qui a quitté sa religion. Puisque le sorcier, il associe à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne peut faire de la sorcellerie que si il associe à Allah. Et il adore les shayatins et les djinns. Seulement par là, il pourra faire du sihr. Donc c'est un kafir. Et trois parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiallahu anhum, ont décrété que le sorcier devait être tué. Quand on dit devrait être tué, bien sûr, c'est-à-dire que c'est le gouverneur musulman qui doit le faire. Comme Omar, radiallahu anhu, comme il est rapporté dans le Bukhari, qu'il avait écrit à certains émirs à l'époque, « Tuez tout sorcier et toute sorcière que vous trouverez. » Et celui qui raconte l'histoire dit, il faisait partie des émirs de Omar, il dit, « On a trouvé trois sorcières, on les a tuées. » Ou alors Hafsa, la fille de Omar, radiallahu anha, elle avait ordonné qu'on tue son esclave qu'elle avait découvert qu'elle avait pratiqué de la sorcellerie. Et aussi Jundub al-Khair. Jundub al-Khair, dont il est rapporté qu'il a dit, la peine d'un sorcier, c'est-à-dire sa peine légale, c'est qu'on le frappe avec l'épée, c'est-à-dire qu'on lui coupe la tête. Et où il est rapporté aussi, dans Tarikh al-Kabir de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, que Jundub al-Khair lui-même avait tué un sorcier. C'est-à-dire, il y avait, l'histoire, elle raconte que, c'était, je crois, avec Abdel Malik ibn Marwan, ou je ne sais plus, et il avait un sorcier qui jouait devant les gens, devant sa cour. Et il, par exemple, il prenait quelqu'un, il le coupait en deux, après il le remettait. Ou il prenait un bébé, il lui coupait sa tête, après il lui remettait. Donc bien sûr, ça, ce sont des illusions. Il ne le fait pas vraiment, parce que seul Allah Azzawajal peut faire revivre les morts. Mais c'est une illusion, parce qu'il fait partie du sihr, le sihr qui trompe l'œil. Comme Allah a dit, « Saharu a'yun an-nas ». Ils ont ensorcelé les yeux des gens. Donc il faisait ça. Et Jundub al-Khair, il est venu et il l'a tué. Et il lui a dit, « In kunta sadiqan, fa ahyi nafsak ». Il lui a dit, « Si t'es véridique, bah fais-le, refais-toi vivre toi-même ». Donc ça, c'est un sahabi qui avait fait ça. Tout ça, ça montre la gravité de la sorcellerie. Alors que maintenant, dans notre société, le sorcier, comment on l'appelle ? On l'appelle le fqé. On y va, on lui donne 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros, des fois encore plus. Et après, il dit du blabla, tu comprends pas ce qu'il dit. Il t'écrit des trucs, tu n'arrives pas à les lire. Et il dit, tu vas l'enterrer au cimetière là-bas sous tel tombe. Ou alors, tu prends des œufs et du fer et tu fais telle et telle chose. Ou alors, il dit à la vieille, tu prends ça, tu vas le brûler dans la chambre de ta fille ou dans la chambre de ton fils. Ou bien, tu le mets sous l'oreiller. Etc, etc. Tout ça, c'est des actions du sahir, des sorciers. Mais à cause de l'ignorance des gens, ils les appellent fqé. Ou alors, ils disent tolba, ou bien talib. Subhanallah. C'est un talib, talib al-shar. Talib jahannam. C'est un demandeur de l'enfer. C'est un chercheur du mal, c'est pas un chercheur du bien. Celui qui fait ce genre de choses. Mais les gens, ils n'arrivent plus à discerner entre Waliullah et Waliul Shaytan. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas appris la religion. Le premier qui vient avec sa chachia et qui fait 2-3 tours de passe-passe, ils ont cru que c'est un Waliul Rahman, alors que c'est Waliul Shaytan. Parce qu'il adore. Il faut savoir que les sorciers, ils ne peuvent pas faire de la sorcellerie s'ils n'adorent pas les shayatins. C'est pour ça, des fois, il y a des gens, ils viennent me voir, ils me disent, bah oui, mais regarde le sorcier, il m'a écrit le Coran. Ouais, le Coran, comment il est écrit ? Il est écrit en rouge. Moi, si j'écris le Coran, pourquoi je vais prendre spécialement du rouge ? J'écris en noir, en bleu. Tu sais pourquoi c'est du rouge ? Parce que ça, c'est dem ou l'haïd. Ça, c'est le sang qui sort de la femme. Il le prend, et Shaitan, il lui dit, si tu écris le Coran avec ça, je vais faire ce que je veux, ce que tu veux, je le fais. Hada, je vais le rendre malade, Hada, je vais le tuer, Hada, je vais le séparer de sa femme. Mais d'abord, tu fais ça pour moi. Parce que le shaitan, il veut qu'on l'adore. Si tu lui obéis, lui, il lui obéit. Donc il prend son truc, il met dans le sang de sa femme, qui c'est une najasa, et il écrit Kitab al-Kalam al-Bari subhanahu wa ta'ala avec ça. Comme ça, il a obéi à shaitan. Ou alors, il prend et il écrit le Coran mélangé ou à l'envers. Et miskin, il dit, bah regarde, c'est le Coran. C'est pas le Coran. Rabbil alamin lillahi alhamdu. Ça, c'est pas alhamdulillahi rabbil alamin. Ça, c'est istihza bi kalamillah. Tu te moques de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que si tu te moques, Shaitan, il va travailler avec toi. Et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas se laisser tromper. Ou alors, des gens ils me disent, ouais, j'étais chez le Fréfoulen. Alors qu'est-ce qu'il t'a fait? Bah, il a lu le Coran. Il a fait que lire. Non, après, au bout d'une demi-heure, il a parlé, je comprenais plus ce qu'il dit. Bah voilà, il t'a trompé. Il lit le Coran, comme ça toi tu dis, bah c'est vraiment affreux. Il lit vraiment le Coran. Comme ça toi tu crois. Quand il y en a marre de lire le Coran, ou alors il n'en peut plus, parce que lui-même il ne supporte pas le Coran, là il va passer à son Khanzafin, Khandalam, Lashmam, son blabla. C'est ni du berbère, ni de l'arabe, ni tu comprends rien du tout. Si ça se trouve, c'est de l'hébreu. Et là, il commence à invoquer les shayatines pour qu'ils travaillent avec lui. Il ne faut pas se laisser tromper. Fqih, talib, etc. Ça, c'est du vent. Wala yaznoun. Donc, on a parlé comme quoi ils n'invoquent pas quelqu'un en dehors d'Allah. Et ils ne tuent pas quelqu'un qui est interdit de tuer. Wala yaznoun. Et ils ne commettent pas la fornication. C'est-à-dire, au contraire, ils sont chastes. Ils font, s'ils ont des rapports à avoir, ils le font qu'avec leur femme, avec qui ils se sont mariés. Donc, zina, c'est général. Ce qui est voulu ici, c'est zina qui est connu. C'est-à-dire de faire un acte avec une femme qui est interdite. Et zina, il a beaucoup de formes. C'est-à-dire, le mot zina, il peut s'appliquer à des choses qui sont moins graves que ça. Comme le fait de regarder une femme, bishahwa, c'est-à-dire de la regarder avec désir. Ou alors de la regarder dans sa aura, de regarder d'une femme ce qui est interdit. Ça aussi, ça rentre dans zina al-basar, dans la fornication de l'œil. Ou alors le fait de parler avec une femme qui est interdite, de parler sans haja, sans un besoin précis, et de parler bishahwa, avec désir. On va faire connaissance, on va se donner rendez-vous à Bruxelles, etc., etc. Ça aussi, ça rentre dans zina. Le fait de marcher au rendez-vous, ça aussi, ça s'appelle zina. C'est le zina avec les pieds, etc., etc. Mais ce qui est voulu ici, c'est le zina qui est le plus grave. Et si on regarde les trois choses qui sont citées dans le verset, il a dit, il n'invoque pas quelqu'un d'autre qu'Allah. Donc ça, c'est le droit de qui? C'est le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire qu'il respecte le droit d'Allah, azza wa jal. Ensuite, il ne tue pas. Tuer, ça c'est le droit de qui? C'est le droit des autres. Donc il ne transgresse pas le droit des autres. Et ensuite, wala yaznoun. Celui qui fait zina, il a commis une injustice envers qui? Envers lui-même. Il s'est commis du tort à lui-même en faisant un péché. Donc si vous voulez, le verset, il regroupe les trois grandes transgressions. La transgression dans le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui se fait en lui associant quelque chose, ou alors la transgression dans le droit des autres, et la plus grande transgression dans le droit des autres, c'est de tuer quelqu'un, ou alors la transgression envers toi-même, et la plus grande transgression que tu peux faire envers toi-même, c'est zina, c'est de commettre fahishatu zina. Donc en vérité, le verset, il a un grand sens. Le sens, c'est que il transgresse pas le droit des autres. C'est-à-dire non seulement les plus grands droits et même les autres droits. Ils ne transgressent pas le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne transgressent pas le droit des autres et ils ne transgressent pas envers eux-mêmes. Ils ne se font pas du tort à eux-mêmes. Inch'Allah ta'ala naktafi bihada. Wa nas'alullah jalla wa ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima alimna wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala ali